Bonjour à toutes et à tous, c'est encore la joie des retrouvailles pour nous et pour cette troisième saison des Nouvelles Vagues. On entendra quelques nouveautés cette saison, mais le projet reste le même, celui d'inviter au micro le plus de nouvelles voix possibles pour penser, pour décrire, pour être dans le monde d'aujourd'hui. La mécanique reste la même, on a un thème par semaine, une approche pluridisciplinaire, ça bouge tous les jours. Et les Nouvelles Vagues s'appellent le magazine de société de France Culture le mercredi. Ça reste numérique, aujourd'hui il n'y a pas Internet. Et la société, on continue de le dire.
Ils ne voulaient plus sortir chez eux, bloqués sur le téléphone dans le canapé. Et aujourd'hui, ils vont écumer tous les parcs de Paris. On le naît sur le téléphone, mais...
Bon, après, ça n'a pas le même intérêt quand même. Ils ne sont pas vraiment avec nous, ils sont devant leur téléphone. C'est... Après, nous, on peut critiquer.
Nous, on cherche de quoi s'arrêter boire un coup.
Ils cherchent leur Pokémon. Non, mais après, nous, c'est le même problème. Avec, moi, par contre, je ne joue pas à Pokémon, mais j'ai Facebook. Et c'est vrai que je passe du temps. Et des fois, on est quand même tous ensemble, mais on est quand même sur les smartphones. Donc, on a beau les critiquer. C'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, oui, vous râlez quand on joue à Pokémon, mais vous êtes bien sur Facebook. Donc, après, ils ont raison.
Ça y est, c'est le dernier jour du mois d'août, c'est le milieu de notre série consacrée à la société, c'est une date qui a le goût de la mise à plat. C'est donc le moment ou jamais de reprendre les choses aux racines et d'aller jeter un œil où ? D'aller jeter un œil dans le dictionnaire. Par exemple, que dit le CNRTL en matière de société ? En première définition, que c'est un état de vie collective, un mode d'existence caractérisé par la vie en groupe, un milieu dans lequel se développent la culture et la civilisation. Plus loin, que c'est un ensemble de relations éphémères ou durables, de rapports organisés ou fortuits que les êtres humains entretiennent entre eux. Ou encore et encore, que c'est un regroupement d'individus soumis à un règlement fondé sur une communauté d'idées, d'intérêts ou de travail. Alors on a un état, un mode, un milieu, un ensemble, un regroupement. Voilà qui nous laisse encore bien de l'espace pour penser. Vous écoutez France Culture, il est 14h passé de 2 minutes. Nous formons chaque après-midi la société très ouverte des Nouvelles Vagues. Et au rang des nouveautés, notre rubrique de 14h50 s'appelle désormais 5 fois. Un invité fil rouge propose tout au long de la semaine 5 récits très subjectifs en lien avec le thème que nous traitons. Jusqu'à vendredi, Ekoué du groupe de rap La Rumeur évoque 5 faits ou phénomènes de société. Aujourd'hui, il parle de cette nouvelle génération de rappeurs qui existe principalement sur les réseaux sociaux et qui se fout, je cite, comme de l'an 40, de la bonne vieille radio. L'enracinement fait leur rayonnement, c'est ce que dit Ekoué vers 14h50. Troisième moment d'une semaine en forme de manifeste. La société, c'est le sujet général des Nouvelles Vagues. Ce qui la structure, la traverse, l'anime, nous y sommes et nous y serons chaque jour attentifs. Mais cette semaine, la société, c'est aussi notre thème. Jusqu'à vendredi, nous l'envisageons à travers 5 questions différentes. Et aujourd'hui, nous nous demandons pourquoi la dichotomie entre d'un côté la société et de l'autre côté Internet et son arsenal de pratiques et de réseaux sociaux a la peau si dure. Qu'est-ce qui se formule dans le maintien de ces deux espaces distincts, dans la critique si soutenue, si usuelle d'un usage des nouvelles technologies qui éloignerait les usagers de la vraie vie sociale. Pourquoi la distinction entre une société hors ligne et une société en ligne a quand même un peu vieilli et qu'est-ce qui, dans ces frontières qui bougent ou s'annulent, modifie notre expérience sociale ? Stéphana Broadpen, vous avez enseigné pendant très longtemps l'anthropologie numérique au Collège universitaire de Londres, où vous êtes en direct depuis les studios de la BBC, puis vous travaillez notamment sur la notion d'intimité en lien avec justement les réseaux sociaux, et puis l'Internet, les nouvelles technologies, mais aussi sur l'enchevêtrement de la sphère personnelle et de la sphère professionnelle. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes en direct depuis les studios de la BBC à Londres et on remercie nos collègues techniciens de vous accueillir. Hubert Guillot, vous êtes à Paris avec moi et à table, IRL, on dirait presque.
Oui, IRL.
Vous êtes rédacteur en chef d'Internet Actu, c'est ce média en ligne de la FING. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
À tous les deux, puisque je disais tout à l'heure qu'on est au beau milieu de cette série d'émissions consacrée à la société. Qu'est-ce qui résonne quand je lance comme ça ce terme pour vous deux qui vous intéressez aux nouvelles pratiques, aux réseaux, à l'Internet, aux nouvelles technologies ?
Avec l'Internet, on a toujours parlé de société en fait. Il y a très longtemps, une quinzaine, 25 ans même que le web est né, on parlait au début de société de la connaissance. Et c'est amusant aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'emploie plus du tout. On ne parle plus du tout de société de la connaissance. On parle de social tout court, en fait. Hein. L'Internet, c'est devenu des réseaux sociaux, des pratiques sociales. C'est ce qui a sédimenté un petit peu toutes nos pratiques avec les réseaux numériques.
Qu'est-ce qu'on entendait par société de la connaissance ? C'était le terme qui désignait l'installation technique ou il y avait quelque chose aussi qui était sous-entendu de circulation d'un contenu, de circulation de la connaissance ?
Alors, je pense qu'il y avait beaucoup de questions de circulation des contenus, de la connaissance. C'était une nouvelle manière de voir l'information dans la société, en fait, qui était plus disponible, plus accessible, plus partageable et puis aussi plus accessible à chacun. C'est-à-dire, chacun pouvait produire de la connaissance. Et tout cela allait s'organiser d'une manière assez magique et nous allions accéder à toutes les connaissances de l'humanité. Quand on regarde aujourd'hui ce qu'il en est, on voit que cet objectif n'a pas vraiment été réalisé, en fait.
Peut-être on reviendra sur ce glissement entre société vers social ou vers sociaux, mais peut-être pour rester sur cette idée de la société de connaissances, je rappelais en introduction les différentes définitions que donne par exemple le CNRTL. Quand on entend société, on entend justement ce regroupement de personnes peut-être un peu élues au départ. Est-ce qu'on dirait que ce passage de société à social, c'est aussi l'explosion en nombre des personnes qui ont accès à Internet ?
Oui, ça a été une grande transformation de ces dernières années. C'est le nombre d'utilisateurs d'Internet qui a vraiment qui s'est répandu absolument partout. Sur Facebook, on a 1 milliard d'utilisateurs actifs tous les jours. Il y a une critique même qui est venue des pionniers de l'Internet en disant d'un coup, ils se sont révélés face à des masses d'utilisateurs et pour eux, l'Internet a changé. Ce n'est plus le même qu'à l'origine. Ce n'est plus des micro-sociétés ou des micro-réseaux qui pouvaient discuter entre eux, etc. Aujourd'hui, tout le monde ou presque est connecté et cette connexion infuse toute la société.
De votre côté, Stéphana Broadbent, quand vous entendez le mot société comme ça, il résonne comment au sein de vos recherches, de vos observations ?
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est justement que surtout dans le monde anglo-saxon, le terme société a été un peu estompé. En tout cas, il est substitué par la notion de communauté, l'idée de community. Et encore plus récemment, on parle de plus en plus, en fait, de collectif, par exemple, d'intelligence collective. Et c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de recherche constante de le rêve de tout start-up ou de toute organisation qui s'occupe d'Internet. C'est d'avoir une communauté, de créer une communauté, d'identifier une communauté. Donc, et en fait, ce n'est pas du tout le même concept, je pense. Et c'est intéressant qu'il y ait eu, justement, peut-être à cause aussi de ce que Hubert Guillot évoquait tout à l'heure, de l'explosion des nombres, c'est qu'effectivement, on est passé de cette idée qu'on essaie d'adresser le social, etc., à identifier une communauté qui ait des pratiques peut-être plus compréhensibles ou plus saisissables ou plus unifiées, si vous voulez.
Donc si on en revient à cette histoire d'échelle, dans un premier temps, on a ce mot société qui est à une peut-être petite échelle avec des initiés, avec des spécialistes, puis ensuite explosion, donc on est à du social et peut-être ce resserrement vers justement l'aspiration à de la communauté, à du collectif, on resserre, on est à une recherche de nouveau une petite échelle.
Il y a des questions de taille, en fait, qui se posent et qui sont assez peu regardées, en fait. C'est quelles sont les tailles de ces publics qu'adressent ces systèmes sociaux, en fait, ces communautés dont parlait Stéphana. Et on voit bien qu'il y a ici des effets de seuil et des effets de masse qui sont très, très différents. C'est pas la même chose de lancer un micro-réseau social de quartier et de s'activer auprès de millions d'utilisateurs sur Facebook, d'autant plus qu'en plus, même sur Facebook, vous n'arrivez pas à les toucher tous. Donc il y a aussi des effets de seuil, de taille qui posent des difficultés sur comment est-ce qu'on les active, comment est-ce que ces réseaux permettent justement de les capturer pour certaines sociétés, c'est capturer des communautés, capturer des publics qui soient attentifs ou capturer l'attention des publics. Et d'un autre côté, se voir que des effets de seuil et de masse apparaissent typiquement. Un réseau comme Facebook avec des millions d'utilisateurs, vous n'arrivez pas à les toucher tous, mais eux ont une puissance d'impact sur toute la société quasiment.
Stéphana Broadbent, en introduction, je parlais de cette dichotomie qui existe entre la société avec des grands guillemets et puis de l'autre côté, l'Internet avec d'autres grands guillemets. Est-ce que c'est une séparation et deux espaces distincts qui vous semblent dépassés aujourd'hui ou est-ce qu'elle existe encore dans le discours ?
En fait, non, je pense que dans le discours, ça diminue un tout petit peu. Et en tout cas, disons mon expérience, mes études depuis 20 ans m'ont toujours convaincu qu'en fait, c'est une séparation vraiment arbitraire, dans le sens qu'on a toujours vu une extension, en fait, où le numérique, Internet, etc., se comporte comme une extension des pratiques de la vie quotidienne. Déjà, il y a 10 ou 12 ans, Je menais une étude longitudinale sur 150 personnes qu'on a suivies pendant 4 ans et on voyait très très bien en fait que leur évolution de vie s'accompagnait par une évolution des usages, mais qu'il y avait très peu de surprises en fait. On faisait très rarement, on trouvait très rarement, encore de nos jours, on trouve très rarement des personnes qui font online des choses qui ne font pas partie, si vous voulez, de leur pratiques de leur panoplie de vie quotidienne, aussi bien dans les relations sociales que vraiment dans les intérêts et leurs activités. Et donc, il m'a toujours semblé que c'était un peu forcé d'isoler le virtuel ou d'isoler ça en dehors de la sphère sociale, parce qu'au contraire, il m'a semblé que c'était vraiment peut-être une des meilleurs exemples de la possibilité en fait de voir le quotidien
comme presque un effet de loupe d'une certaine manière. On ne saute pas dans un autre monde lorsqu'on switch on, quand on allume la connexion à Internet. Pourtant, vous aviez l'air... Je vous en prie, Stéphane, vous voulez...
Non, je voulais dire que ce qui est intéressant, que pour quelqu'un qui est, comme moi, disons, en sciences sociales, je pense que pour nous, ça a été un instrument incroyable pour voir mieux. C'est-à-dire que c'est un révélateur incroyable, en fait, de réalité, de communication, de relation, qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à avoir autrement et qui demandait auparavant des entretiens très approfondis, des suivis très, très longs. Et là, tout d'un coup, les choses sont très disponibles, sont très visibles. Et c'est justement ça c'est pour ça que la distinction a encore moins de sens.
Vous aviez quand même l'air de dire, Hubert Guillot, en entendant Stéphana Broadbent, que c'était une distinction qui demeurait.
Quand on écoute aujourd'hui beaucoup de propos, cette distinction entre virtuel et réel est encore très très présente de partout. Enfin, c'est quelque chose qu'on entend vraiment très très d'une manière très forte. Cette coupure entre ceux qui pratiquent l'Internet et les autres, entre les trolls et ceux qui ont droit à converser dans les médias, entre deux mondes un petit peu. Alors bien sûr, en fait, virtuel en fait ne s'oppose pas à réel, il s'oppose à actuel, au concret, au tangible. Ça veut dire que le virtuel n'est pas irréel, en fait. Il fait vraiment aujourd'hui partie de nos pratiques. Quand on poste une photo sur Facebook ou sur Instagram, cette photo, on l'a prise, elle vient d'une représentation du monde qu'on essaye de partager, en fait. Il y a un sociologue américain, Nathan Jorgensen, qui parle de dualisme numérique. C'est-à-dire que pour lui, la présence en ligne et hors ligne, elles ne sont pas distinctes, en fait. Ça fait partir d'un même continuum où on n'est pas schizophrène. En fait, c'est une continuité d'existence, en fait.
Alors justement, peut-être c'est intéressant, tout ce qui perdure est intéressant à regarder. Qui maintient cette frontière ? Qui a intérêt à la maintenir ? Et pourquoi est-ce qu'elle est maintenue ? Pourquoi est-ce qu'on continue de dire « je vais sur Internet » comme si on passait une frontière et on sautait dans un monde où les choses sont différentes, les règles sont différentes, la réalité est différente ?
Peut-être parce qu'elle n'est pas complètement aussi dans les pratiques de tout le monde, grand 1, et puis aussi certainement parce que, comment dire, il y a encore un rapport à la nouveauté, en fait. Malgré tout, ces médias ont une vingtaine d'années, on les pratique, on les découvre en même temps qu'on les pratique, on les connaît mal, on voit mal leur porosité entre le monde réel et le virtuel, toujours, vous voyez, on y revient, et on comprend mal encore quels sont les effets d'hybridation entre l'un et l'autre. Avec nos smartphones, on peut avoir beaucoup de captations de ce qu'on est en train de faire, des pas qu'on franchit. Donc, il y a beaucoup de données qui sont renvoyées dans le virtuel. Et à l'inverse, par contre, c'est beaucoup plus difficile. On a peu aujourd'hui de choses, les données de ce que nous sommes en train de discuter n'apparaissent plus difficilement dans le réel. Donc, il y a tout un rapport aujourd'hui entre ces deux univers qui nous est compliqué, en fait.
Et je vous en prie.
Non, excuse-moi, je voulais adresser la même. Si vous me permettez de donner un autre point de vue sur cette question, et qui est en fait autour d'un thème qui est le thème de l'attention, qui est un thème qui m'est assez cher parce que je pense qu'il explique beaucoup de choses. Et je pense que cette idée de franchir, de rentrer dans quelque chose d'autre qui n'est pas, et en fait lié beaucoup à comment est-ce qu'on gère l'attention, et si en fait est-ce qu'on donne l'attention, si vous voulez, qui est quand même quelque chose de limité. Est-ce qu'on donne l'attention à l'immédiat, ce qu'il y a, je veux dire, par exemple, à notre entourage immédiat, ou bien est-ce qu'on donne notre attention à quelque chose qui est plus éloigné et surtout souvent pas partagé par les personnes autour. Donc, en fait, je pense que des personnes différentes ont une relation différente à l'attention qu'ils veulent et peuvent donner à leur alentour. Vous comprenez, par exemple, les commentaires initiaux dans le petit son. La petite interview que vous avez fait au début.
C'était des parents et des enfants, en effet.
Exactement. Et là, on voit, c'est vraiment une remarque typique de parents, d'être agacés par le manque d'attention que leurs enfants leur donnent ou donnent à leur entourage. Et puis, justement, les enfants qui répondent, mais vous aussi, finalement, vous ne nous donnez pas l'attention. Et je pense qu'autour de cette idée d'Internet comme autre lieu, c'est vraiment où est-ce qu'on pose, si vous voulez, notre charge attentionnelle, émotionnelle.
Et d'ailleurs, et puis on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, aussi le soin, hein, c'est quelque chose que vous développez beaucoup, à savoir de qui prend-on soin et de quelle manière. Peut-être pour un peu terminer sur ce premier tour de table autour de ce dualisme numérique, pour reprendre Jürgenson, Hubert Guillot, vous écrivez très bien dans vos articles combien cette distinction entre d'un côté la société et puis la nouveauté technique n'est pas quelque chose qui date d'Internet, qu'on a eu par exemple du mal à penser la continuité de la vie sociale avec l'apparition du train, de la voiture. À un moment donné, ça veut dire qu'on pouvait penser qu'une fois dans sa voiture, on était extrait de la société, Berrieux.
Oui, en même temps, on a toujours diabolisé un petit peu les nouvelles pratiques, notamment les pratiques qui sont médiatisées par la technologie. Hein. La télévision, par exemple.
Alors qu'aujourd'hui, on ne penserait jamais dire quelqu'un qui regarde la télévision n'est pas dans le réel ou n'est pas dans la société.
Et pourtant. Donc oui, c'est une réaction fréquente en fait face à des nouvelles instanciations technologiques en fait, où on a plutôt l'habitude de dénoncer des formes de panique morale, des nouvelles cultures qui viennent remettre en place les cultures existantes et donc qui les mettent en danger. Aujourd'hui, on voit bien par exemple les discussions sur les réseaux sociaux autour de toute l'actualité remettent en cause ce que peuvent dire les gens qui sont autorisés à converser dans les médias. Voilà.
C'est peut-être pour en revenir à la question de savoir qui a aujourd'hui intérêt à maintenir cette distinction entre deux espaces. Peut-être qu'il y a une réponse à trouver du côté de la parole autorisée et du côté de la circulation de la parole valorisée, visible et audible.
Oui, tout à fait.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Moi, j'ai l'impression que les gens que je rencontre, disons, hors du couple, j'ai plutôt des fausses relations avec eux, disons, les connaissances, voilà. Alors que quand je suis seule avec ma caméra ou quand je regarde d'autres personnes seules avec leur caméra, j'ai l'impression d'assister à quelque chose de vrai, d'absolument spontané. Et le fait que ça me soit adressé est un cadeau quand on est abonné à une chaîne et qu'on voit qu'on a une petite notification et qu'on retrouve telle fille. Même ça m'arrive de regarder des filles qui font des tutos maquillage dans leur chambre. Et
des tutoriels, c'est donc des petites vidéos où on montre comment se faire du fard à paupières ou des nattes.
Oui,
ou, voilà.
Malheureusement, la place des femmes sur YouTube est beaucoup pour l'instant limitée à ça, c'est-à-dire la beauté. Mais oui, rencontrer, aller voir une fille qui me parle de ce qu'elle a acheté comme nouvelle crème, c'est addictif, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est...
Est-ce que ça signifie que pour vous, poster une vidéo depuis sa chambre ou depuis un espace qui est une chambre, on va dire, c'est extrait d'un théâtre social, c'est extrait d'un maquillage relationnel qui nous oblige à être un rôle dans toute relation sociale, entre guillemets, de la vraie vie?
Je ne vais pas trop m'illusionner, il y a des codes aussi, et il y a des gens que je n'aime pas regarder justement pour ça, parce qu'ils sont dans des codes. Mais la solitude de l'autoportrait et de voir s'imposer cette technique, parce qu'il faut s'emparer de l'outil pour pouvoir capter son image et son son, et la solitude. Et ça nous ramène à l'enfance de « on va faire comme si j'étais marchande et que j'avais un stand et maintenant je vais vous expliquer mes produits. »
Et je suis seule dans ma chambre.
Oui, donc c'est forcément émouvant, cette sorte d'auto-représentation. Et encore une fois, ça, c'est vertigineux parce qu'on se dit « en fait, tout le monde pourrait faire spectacle de soi sur Internet et je pense que je m'intéresserai à tout le monde. »
La voix de Solange te parle avec Pepper Plains de Daisuke Tanabe. On l'entend ici parler de la manière dont justement elle inverse la hiérarchie classique des rapports sociaux, dit-elle. Moi, en dehors de ma relation de couple, ce que j'entretiens avec les autres dans la vie sociale réelle, entre guillemets, me paraît faux. Alors que quand je regarde des vidéos de jeunes filles qui me vantent l'intérêt de tel ou tel maquillage, ça me semble vrai, ça me semble spontané. On retrouve justement dans cette distinction dont on parle, société d'un côté, Internet de l'autre, une hiérarchisation comme ça, qualitative, morale, Bergio.
Oui, tout à fait. On a beaucoup de discours aujourd'hui qui est contre l'emprise des écrans, qui vante la déconnexion, l'arrêt et qui prône la richesse des conversations réelles en face à face, etc. Or, la proximité, elle n'est pas que géographique, elle n'est pas que dans la coprésence. On a aussi des proximités qui sont attentionnelles, qui sont dans l'empathie, qui sont dans les activités qu'on peut avoir, les identités qu'on peut avoir. Donc derrière tout ça, il y a toujours une question aussi de est-ce que les écrans détruisent l'empathie, les relations, l'attention. Alors en fait, ce qu'on voit mal ou peu, c'est qu'ils construisent aussi des choses. Ils sont pas que négatifs et ils permettent à d'autres types de gens de se mettre en relation. Mais bien évidemment, ce sont pas les gens qui ont la parole habituellement en fait. Et ce sont pas ceux qui dominent les conversations. Donc il y a d'autres conversations qui se font jour avec l'internet et qui nous apparaissent depuis ces dernières années. Il y a des tas d'études qui montrent, par exemple, sur que ce soit les réseaux de jeunes filles surtout anorexiques, les réseaux de malades d'Alzheimer qui arrivent via des forums à discuter entre eux, etc. Alors c'est très difficile pour eux de le discuter en face à face et en IRL. C'est donc une autre forme d'autres formes de communication qui se font le jour. Et le but, enfin, le danger, c'est d'y faire un jugement, c'est d'en émettre un jugement moral, en fait, et de dire non, il n'y a qu'une forme d'attention ou il n'y a qu'une forme de relation qui prône sur les autres, alors que ce n'était pas nécessairement le cas. On a tous des tas de rapports différents et aux gens et aux réseaux sociaux.
Alors finalement, peut-être, on reviendra sur cette question de l'extraction qui est critiquée, l'extraction de la société. Mais ce que vous décrivez, vous, c'est des manières de faire société alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. C'est-à-dire des personnes qui ne pouvaient pas faire, pour reprendre la première définition qu'on donnait tout à l'heure, ce fameux regroupement, ce fameux plusieurs individus partageant quelque chose. C'était des sociétés qui n'existaient pas et qui, par le biais des nouvelles technologies, d'Internet, des réseaux sociaux, émergent.
Oui, qui arrivent à se regrouper, et même à faire des actions un petit peu collectives, Aujourd'hui, on trouve des forums sur absolument tout et n'importe quoi, mais c'est bien ça aussi l'un des enjeux, c'est d'arriver à se mettre en communication avec des gens avec qui on se sent proche, sans l'avoir jamais été, en fait. C'est un petit peu ce que décrit Solange Te Parle quand elle se sent proche d'autres youtubeurs, tout en ayant ce décalage parce que elle n'a pas la proximité du rapport quotidien avec eux.
Est-ce que ça veut dire que ce sont des regroupements ou des partages qui sont ou qui étaient moins légitimes, qui avaient moins de droits de cité, qui étaient moins valorisés dans une société, par exemple, il y a 20 ans?
Peut-être. Ce que ça veut dire surtout, en fait, c'est que, mais ça, c'est Stéphana en parlerait mieux que moi.
On va lui donner tout de suite.
C'est que malgré nos 120 amis en moyenne sur Facebook, en fait, on se rend compte qu'on échange d'une manière bidirectionnelle avec très très peu. 4-5 personnes en moyenne, voire moins. Les échanges qu'on a de manière synchrone, c'est-à-dire qu'ils soient vocaux ou physiques avec les gens, souvent c'est une poignée de personnes.
En fait. Et une poignée de personnes, et en effet on va vous donner la parole parce que vous avez écrit là-dessus, Stéphana Broadbent, une poignée de personnes qui ne diffère pas de la fameuse poignée de personnes avec qui par ailleurs nous allons boire des cafés et à qui nous racontons notre vie.
Oui, tout à fait. Et donc, justement, on avait fait pas mal d'études sur ce thème, et puis il y avait ce chiffre un peu qui était au-dessus de 5 ou de 10, qui étaient les personnes, malgré le nombre de contacts assez importants sur les réseaux sociaux, avec qui on garde des relations bidirectionnelles, avec qui on envoie des messages, on répond à des messages, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis, en fait, les WhatsApp, par exemple, ou d'autres raisons ont bien compris ce phénomène et ont créé en fait des services qui s'adressent justement à des groupes plus petits, c'est-à-dire de comment avoir des. Si vous prenez WhatsApp, c'est rare qu'un groupe WhatsApp dépasse la dizaine de personnes.
Donc WhatsApp, c'est des groupes assez restreints. WhatsApp, préciser, c'est
donc oui, excusez-moi. Oui.
Je vous en prie. Vous allez certainement l'expliquer mieux que moi.
Non, donc c'est un service d'échange de messages dans lequel on peut créer un groupe dédié. Donc tous les messages qu'on envoie, tous les textes qu'on envoie, vont immédiatement à tous les membres de ce groupe. Et donc typiquement, chaque personne se crée quelques petits groupes, peut-être un groupe famille, un groupe ami, un groupe ceux avec qui je vais partir en vacances, etc.
Et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure du passage de la question de la société à, en fait, à la question de la communauté. Mais peut-être pour reprendre et approfondir ce que disait à l'instant Hubert Guillot sur la notion géographique, puisqu'on a parlé beaucoup de se déplacer, de se transplanter d'un espace à un autre. Vous écrivez très bien combien l'éloignement géographique n'empêche plus de faire société. Et que via Skype et via les téléphones portables et via les réseaux sociaux, on peut continuer de faire société à l'autre bout du monde, même si on est à plein d'endroits du monde différents.
Oui, ce qui est fascinant, c'est déjà, même en écoutant donc l'interview sur la personne qui regarde les youtubeurs, ce qui est fascinant, c'est notre incroyable capacité de comprendre et de décoder, si vous voulez, les phrases, les états d'âme d'autres personnes avec des canaux relativement petits. C'est toujours relativement pauvre. J'ai toujours été fascinée par la capacité qu'on a, et tout le monde a en fait, de évoquer des émotions très fortes à partir d'un texte de 10 mots, si vous voulez, qui peuvent susciter une grande émotion, une grande joie, un grand malheur, etc. Et en fait, c'est ce qui se met en place aussi en regardant des YouTube, des images YouTube, où on a une très bonne capacité à capter, si vous voulez, si c'est authentique, la notion d'authenticité, etc. Et donc, je pense que tous ces médias, en fait, se reposent sur cette vraiment extraordinaire capacité cognitive et communicationnelle que nous avons de comprendre l'autre et je pense que, en fait, cela, c'est en train de s'affiner, en fait. Je pense qu'on devient de toujours mieux, toujours meilleur dans notre capacité de décoder les messages des autres aussi à partir de peu d'images. Un emoji peut donner énormément de joie parce qu'on projette des choses, mais aussi parce qu'on comprend des choses. Et donc, ça, je pense que c'est un peu à la base de tout le phénomène de compréhension, si vous voulez, des usages de ces nouveaux canaux de communication. Alors, l'autre chose, à partir de ça, effectivement, pourquoi est-ce que la notion de communauté est émergée et c'est sorti en fait d'un discours plutôt anglo-saxon et plutôt américain en plus. C'était vraiment l'idée que même en isolement, même si j'habite dans une petite ferme dans la campagne de l'Ohio, je peux trouver des autres personnes éloignées, etc., avec qui je partage des intérêts, des passions, etc. Et qu'en fait, cela va me permettre de me constituer une communauté qui est une communauté d'intérêt. Et c'est un peu... Oui, excuse-moi.
Non, je vous en prie.
Donc, c'est un peu ça, je pense, qui a été à la base de la notion de communauté, qui est un peu, quand on regarde les services qui viennent aussi de beaucoup des réseaux sociaux qui viennent des États-Unis, il faut se mettre dans l'esprit que ça partait avec une idée, bon, on va donner des outils qui vont permettre aux personnes de retrouver des groupes, de retrouver des communautés qui sont plus semblables à eux, parce que finalement, quelque part, peut-être leur appartenance sociale ne correspond pas à leur environnement social physique ne correspond pas à leur environnement psychique, si vous voulez.
Quand on continue à hiérarchiser justement et à mettre par exemple plus en avant ou de manière plus positive deux personnes qui, comme Hubert Guillot et moi, vont parler en face à face à une table, ça va être mieux entre guillemets que cette personne que vous décriviez dans l'Ohio qui, seule au fond de sa ferme, va créer une communauté virtuelle et de par le monde recréer son groupe, on va dire. Il y a quelque chose qui est mieux que l'autre, ça veut dire quoi? C'est un vieux monde qui essaye de se rattraper aux branches et de continuer d'imposer des normes, Hubert Guillot?
Oui, enfin, je pense, oui, il y a un côté de regard un peu moral sur ces pratiques, sur comment elles ont lieu, avec qui. Il y a une sorte de contrôle social, en fait, qui se cache là derrière. Avec qui avez-vous le droit de converser? Avec qui n'avez-vous pas le droit de converser?
À quelle fréquence?
À quelle heure? Et on voit bien que le contrôle attentionnel, par exemple, des parents sur les enfants par rapport à ces outils est assez fort, assez marqué. On cherche aujourd'hui encore quelles sont les règles, les processus, les façons de faire face à des outils qui perturbent en fait les relations. C'est, par exemple, l'interdiction d'utiliser son portable quand on est à table. Ou des choses comme ça. Donc, il y a une sorte de normativité qui se met en place et, bien évidemment, il y a des tas d'incidents qui se passent sur lesquels on discute, en fait. Quelle est la norme? Est-ce que Pokémon Go, c'est une nouvelle norme et comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la société? Comment est-ce qu'elle pose question?
Et quelle place on lui fait?
Voilà.
Oui, donc moi, c'est la première fois que je vais au Parc de la Villette après le début du phénomène Pokémon. Donc moi je suis un joueur assez débutant, donc là ça me surprend quand même parce que je pensais pas qu'il allait avoir autant de monde. Donc il y a vraiment vraiment beaucoup de monde, je pourrais pas dire, je pense à peu près entre 500 et 1000 personnes quoi. Enfin, je pense qu'il y a des gens d'à peu près de 13 à 30 ans surtout. Non, quand même c'est assez mixte et franchement on voit de tout. Et donc il y a des gens qui sont assis tous regroupés en train de pique-niquer. Et d'autres qui sont debout, d'autres qui sont un peu partout en fait. Mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils sont tous rivés sur leur téléphone en fait. Et ils ont souvent un petit chargeur portable qui est connecté sur leur téléphone pour paquet de panne. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui prend beaucoup de batterie. Ça veut dire qu'il utilise le GPS et la 3G et il doit tout le temps être allumé.
C'est une application qui en fait reprend les principes du jeu Pokémon, auquel on a tous plus ou moins joué, donc c'est un peu un phénomène générationnel. Et en fait, il faut attraper des Pokémon en se déplaçant, et l'application prend en compte les déplacements du joueur pour aussi faire éclore des œufs. Le joueur trouve des Pokémon un peu partout lors de ses déplacements, mais particulièrement à proximité de ce qu'on appelle les Pokéstops, qui sont des lieux d'intérêt particuliers qui sont représentés par des petits poteaux dans l'application. Et sur ces Pokéstops, on peut mettre des leurres qui sont des modules qui attirent les Pokémon, d'où le regroupement d'aujourd'hui parce que nous sommes actuellement entre plusieurs Pokéstops qui sont pourvus de leurres.
Et là, par exemple, on voit tous ces gens qui ont donc entre 13-14 ans et la trentaine, hein, ça va pas tellement au-delà. qu'est-ce qu'ils attendent? On les voit tous sur leur smartphone.
Déjà, ils utilisent les Pokéstops pour récupérer le plus d'objets possible pour leur quête, parce que les Pokéstops donnent des objets comme des Pokéballs pour attraper les Pokémon. Et ensuite, ils se rassemblent dans ce type de parc, comme à la Villette, parce qu'il y a souvent des Pokémon rares qui apparaissent à certains moments, et alors ça crée ensuite des énormes mouvements de foule auxquels, j'espère, on va assister aujourd'hui.
Ici, c'est assez dingue quand on est sur notre application, parce qu'en fait, on est entouré de 3-4 spots, et les 4 ont des bonus en fait, qui font que les Pokémon apparaissent. Quand on joue dans un autre endroit, on trouve un Pokémon toutes les 10-20 minutes peut-être, et ici, il y en a 5 toutes les secondes en fait. Quand on est arrivé, on a vu des gens dans le métro et dans le tramway qui jouaient déjà et qui venaient en fait au même endroit. Et aussi, on a vu des gens à un moment se déplacer en masse vers un endroit hors de là où il y avait tous les Pokéstops. Sûrement parce qu'il y avait un Pokémon rare qui avait apparu. Donc en fait, c'est un jeu qui est virtuel, qui s'utilise sur le téléphone, mais qui en fait est dans le monde réel. C'est-à-dire que là, on est obligé d'être à cet endroit pour pouvoir jouer efficacement. C'est là où il y a les Pokéstops. Et en fait, les Pokéstops sont souvent des monuments. Là, c'est quoi les monuments qu'il y a ici?
Par exemple, la fresque qui se trouve à côté de nous sur le sol, elle a été signalée, donc à mon avis, comme point d'intérêt sur Google Maps ou dans les données de localisation. Et du coup, elle apparaît. Ensuite, par exemple, il y a un panneau qui signale la présence d'un érable spécial dans le parc.
Donc là, on voit sur l'écran de ton smartphone, fresque sur sol, ensuite
manège de la Villette,
ensuite érable jaspé. Et ça, tout ça, ce sont des éléments du décor naturel ou des éléments du décor humain, enfin, des infrastructures voilà, qui existent dans le réel.
Qui existent dans le réel et qui sont signalés dans le jeu. Alors,
Et donc c'est un jeu qui ne présente aucun intérêt à être pratiqué seul chez soi.
Ça fait vraiment très ennuyeux. C'est un jeu qui prend du sens en se déplaçant. Et du coup, ça crée quand même des regroupements de gens. Je pense que quand quelqu'un vient tout seul, il est forcé de parler aux autres. Parce que c'est aussi un jeu où il y a très peu d'indications dans le jeu lui-même sur comment y jouer. En fait, c'est plus intéressant de parler aux autres pour pouvoir comprendre toutes les astuces, pour pouvoir évoluer plus rapidement en fait.
C'est un peu le paradoxe de ce jeu, c'est que d'un côté chacun est rivé sur son smartphone et regarde son écran, et de l'autre côté ça peut permettre aussi de créer une certaine communauté autour de ce jeu de fans de Pokémon. Et effectivement les gens viennent déjà en groupe, donc ont tendance à rester dans leur groupe, mais il y a des interactions ponctuelles entre les joueurs, justement quand il y a des mouvements de foule, que tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de chercher, ou alors quand un joueur est nouveau et qu'il a besoin de conseils, ou qu'il est tout seul, qu'il ne fait pas partie d'un groupe dans sa quête Pokémon et qu'il peut peut-être parler à un groupe qu'il souhaiterait rejoindre.
Karim, Julie, au micro d'Inès Duperron dans le parc de la Villette, à Paris. Elle y est allée, Inès, ce dimanche, et franchement, elle n'a pas eu de mal, je crois, à trouver quelques foules portables à la main en train de dresser et chasser les Pokémon. Vous l'évoquiez juste avant, Hubert Guillot, est-ce que le Pokémon Go, la manière dont justement cela travaille nos déplacements, joue avec nos déplacements, force à parler, si on reprend les mots de Karim et Julie, est-ce que ça peut devenir une norme? Pourquoi est-ce que ce jeu nous pose justement la question du social et de la société d'une manière à la fois ludique et nouvelle?
D'abord, c'est un jeu qui a eu un très grand succès, très rapidement. On parle de 130 millions de téléchargements de l'application en quelques mois, qui génère énormément de revenus. On parle de plus de 100 millions de revenus aussi en quelques mois pour la société qui l'a lancé.
C'est bon de le rappeler.
Voilà, 40 à 30 millions d'utilisateurs quotidiens. Ce que ça change un petit peu, bon, ça fait longtemps qu'on avait vu des médias géolocalisés, des jeux un peu géolocalisés, mais qui n'avaient pas pris cette ampleur. Donc ce qui change bien évidemment, c'est l'ampleur que ça a pris très 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 rapidement, qui a fait apparaître des phénomènes nouveaux. Donc ces foules à la Villette ou ailleurs, dans des parcs qui sont habituellement des lieux publics qui sont habituellement des lieux de déconnexion, où la connexion est peut-être un peu plus difficile, où la norme sociale en fait est un petit peu différente, d'un coup sont apparues des hordes de jeunes et de moins jeunes chasseurs de Pokémon. Donc forcément, ça interroge l'espace public. Qu'est-ce que c'est que l'espace public? Comment est-ce qu'on le partage? D'autant plus que c'est à la fois un jeu social où il faut se mettre à plusieurs pour se donner des indications, mais c'est en même temps un jeu intime qui se joue chacun sur son propre écran. Et donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui pose le phénomène, a fait que tout le monde s'en apparaît, tout le monde se pose la question, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça transforme?
Et est-ce que c'est bien? C'est-à-dire que la question qui vient au bout de tout ça, c'est est-ce que c'est bien? On entendait, on va revenir à 14h à cette voix de parents et d'enfants qu'Inès Duperron a aussi rencontré à la Villette, et où on sent bien que la question du bien et du mal, de est-ce que nos enfants ont le droit de le faire, mais en même temps on est toujours aussi nous en train de regarder Facebook pendant qu'on boit des coups et qu'on discute avec eux, la question de la morale et du bien est très très vite rapatriée.
Je pense qu'elle revient forcément parce qu'on est face à des objets nouveaux, différents, ou sur lesquels on ne sait pas forcément se comporter. Donc on se pose toujours la question, est-ce que être passionné de quelque chose, de jeu, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que être passionné de livres, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là, on a un peu tranché. Mais sur tous ces phénomènes un petit peu nouveaux, c'est bien plus difficile de se dire quelle est la norme, quelle est la bonne pratique, quelle est la bonne utilisation, d'autant plus que ces outils sont aussi une conception interne, c'est fait par des sociétés, une conception qui a tendance à être un petit peu addictive. Disons que le but de ces jeux, c'est de vous faire passer le plus de temps possible dans ces jeux. Et le but des applications sur Facebook, etc., c'est tout. Ils ont tous un petit peu, le but, c'est de garder l'utilisateur le plus longtemps possible. Donc il y a aussi des techniques qui sont mises en œuvre par ces promoteurs pour vous faire maintenir, pour garder votre attention le plus longtemps possible.
Et ça, c'est encore une question, on y viendra peut-être après, sur la manière dont des grands groupes façonnent, et peut-être façonnent à leurs intérêts et à leur profit, les interactions sociétales. Mais Stéphana Broadbent, pour rester un petit peu sur cette ambiance de jeu au Parc de la Villette, à Paris, on entendait bien Karim, Julie, Inès et puis tous ces gens qui se rencontraient, que la frontière entre le réel, l'irréel et même les mots utilisés, et c'était un peu flou, c'était vraiment des frontières qui bougeaient, qui s'annulaient, avec lesquelles ils pouvaient s'amuser. Ça fait un peu penser à ce que vous décrivez de la manière dont la frontière entre le personnel, le professionnel, l'intime, l'extime, l'intime et le social sont en phase de redéfinition permanente.
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ces interviews. Je les ai trouvées vraiment très, très, très justes dans la façon de raconter. Et ce que j'ai trouvé justement assez touchant, en fait, c'est cette idée qu'on est tous là ensemble, d'une certaine manière, que les gens viennent en groupe, puis ils jouent ensemble, puis ils échangent, etc. Et je trouvais que c'était une description assez, assez typique, si vous voulez, du jeu en général, c'est-à-dire où il y a des personnes qui se réunissent, groupes qui parlent un peu, qui jouent, etc. Ça me paraît quelque chose qu'on a retrouvé, par exemple, aussi quand on a fait des études sur les gros jeux online, World of Warcraft, qui est un jeu où on joue chacun dans sa chambre, et les gens doivent communiquer tout le temps et créer des groupes qui jouent ensemble. Et ce qui est intéressant là, c'est que là aussi, les personnes se donnent des rendez-vous. Des fois, ils jouent ensemble à distance parce qu'ils ne peuvent pas se rencontrer, mais par exemple, à Londres, ils essayent une fois tous les mois, une fois tous les deux mois, de quand même se retrouver au pub tous ensemble. Donc, où le jeu a cette double fonction de, bon, on joue un peu à distance, un peu ensemble, etc. Et cette frontière, si vous voulez, le fait d'avoir besoin, en fait, de se rencontrer, puis d'amener son groupe avec soi, donc on va avec des amis à la Villette, par exemple, c'est un peu, effectivement, ce que j'ai essayé de décrire par rapport au monde professionnel et privé. C'est-à-dire que ce qui s'est passé aussi dans plus ou moins dans ces années, ces dernières 10 ans, c'est que des sphères qui étaient très séparées, c'est-à-dire la sphère professionnelle, on rentrait au travail, on rentrait au bureau en laissant derrière tout l'espace personnel, sauf dans ses pensées, on ne pouvait pas communiquer que rarement. Tout d'un coup, cet espace privé est présent dans son téléphone, on reçoit des coups de fil, on envoie des messages, etc. Donc en fait, cet espace privé est rentré au travail et ça a beaucoup modifié, en fait, je pense, notre relation au travail. De même, évidemment, le travail est rentré à la maison et c'est en train de modifier aussi notre relation à la maison.
Et si on reprend les premières définitions que je donnais tirées du CNRTL, la société c'est un ensemble de relations éphémères ou durables, de rapports organisés ou fortuits que des êtres humains entretiennent entre eux. On peut vraiment dire que les joueurs de Pokémon Go à la Villette dimanche dernier font société, définitivement.
Oui, moi je pense que ça correspond bien à la définition, et surtout que justement on voit ce qu'on voit apparaître, c'est vraiment tous les éléments, c'est-à-dire on voit des groupes qui sont préexistants, qui bougent là, on voit un espace public qui a été défini d'une certaine manière, et je pense que Hubert met le doigt sur la question du bien et du mal, qu'est-ce qui fait tension, c'est le fait que par exemple ça demande de redéfinir ce qu'est un espace public, le fait qu'il est augmenté par quelque chose de virtuel et comment on l'utilise, etc. Et donc on a un espace public, on a des normes sociales qui sont propres à comment on utilise un espace public de ce type, on a des groupes résistants, on a des façons d'interagir, parce que ce n'est pas parce qu'on a devant soi un Pokémon que d'une certaine manière on va complètement modifier notre façon de parler à la personne à côté de soi.
Ni oublier qu'il y a une personne et un corps, etc. C'est aussi faire confiance au joueur, à l'utilisateur, à l'être humain, dans sa capacité peut-être d'élargir ses perceptions, de changer ses perceptions, Hubert.
Oui, c'est une question de confiance, quoi. Enfin, derrière ces questions attentionnelles, comme le dit très bien Stéphana, il y a une question éminemment sociale, éminemment relationnelle, en fait. Et c'est ça que ces nouveaux outils mettent en tension.
Alors peut-être on va terminer sur une note un tout petit peu moins positive ou un tout petit peu plus critique. Vous évoquiez tout à l'heure les grands groupes qui développent ces jeux, ces applications. Vous avez aussi beaucoup parlé de Facebook. Est-ce que vous diriez qu'il y a aussi de l'autre côté de la ligne, il y a d'un côté l'utilisateur et de l'autre côté ou juste derrière, des grands groupes qui façonnent la société, les relations sociales, les échanges sociaux avec des intérêts qui seraient... bien calculé, on va dire.
Oui, on a toujours l'impression de, même avec ces outils, avoir des choix libres, en fait. Or, on ne voit pas, ou on voit très très mal, la manière dont ils nous obligent, la manière dont ils sont conçus, dont ils sont designés, vraiment. Il y a un designer qui était chez Google, Tristan Harris, il s'appelle, qui a fait assez récemment son l'article qu'il a pu faire a été très repris et très discuté. Il a publié un manifeste du temps bien employé. Et justement, il regarde comment est-ce que aujourd'hui ces entreprises, ces grands groupes qui utilisent ces systèmes interactifs, façonnent un petit peu, utilisent des technologies de la persuasion dont on ne se rend pas nécessairement très compte. Ils exploitent nos faiblesses, nos biais psychologiques, sociaux, cognitifs, comportementaux.
Vous expliquez très bien dans un article où vous citez ce designer, combien finalement la critique se fait toujours dans un second temps. C'est-à-dire qu'on va critiquer le symptôme, on va critiquer l'utilisateur, sa dépendance, sa difficulté à se déconnecter. Mais généralement, la critique se fait un tout petit peu moins sur l'étape d'avant qui est celle du design, celle de la création de l'appli et celle de ces grands groupes.
Oui, tout à fait. Et là, il y a peut-être quand même quelque chose qui nous manque à tous d'être un peu conscients de ce que font, ces nouveaux objets. Par exemple, la manière dans Pokémon dont vous êtes récompensé très régulièrement. C'est un processus psychologique assez classique. On vous donne une récompense, donc ça vous incite à continuer à jouer. La manière dont on nous gave de contenu, un petit peu de ces vidéos qui se jouent tout seuls quand vous êtes sur Facebook, ces pages qui ne se terminent jamais, qui sont un petit peu sans limite, sur lesquelles vous pouvez passer finalement 4 heures, et puis vous vous rendez compte, mais pourquoi j'ai perdu 4 heures, enfin. Donc il y a tout un design attentionnel qui est aujourd'hui aussi un petit peu recherché pour capter l'utilisateur, pour le faire rester plus longtemps. On est face à des entreprises commerciales et ça c'est important. Une chose par exemple qui me marque, c'est la manière dont ils utilisent des choses comme l'approbation sociale. C'est-à-dire que nous sommes tous très vulnérables nous recherchons tous l'approbation de nos pairs, en fait. Et sur Facebook, like. Le like, c'est vraiment, voilà, quand on publie quelque chose sur Facebook, on est à la recherche du like, de l'approbation de nos pairs. Et il y a des gens qui y sont, ou des communautés qui sont plus sensibles que d'autres. Les adolescents, par exemple, sont bien plus sensibles et sont bien plus à la recherche de ces formes de récompenses qu'ils peuvent avoir autour de ces outils. Donc ça pose nécessairement des questions sur la manière dont aujourd'hui ces outils s'intéressent à notre attention, la monétisent, la capturent.
Vous écoutez France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richaud.
14h50 sur France Culture, merci d'être avec nous. La rubrique qui vient s'appelle 5 fois, car 5 fois nous entendrons chaque semaine la voix d'un invité fil rouge s'emparer comme il le souhaite de notre thématique, 5 récits subjectifs pour ouvrir encore et davantage le spectre des points de vue. Cette semaine, celui qui s'attaque au thème de la société, c'est Ekwe, membre du duo de rap La Rumeur. Je ne fais pas partie des pleureuses qui disent que c'était mieux avant, dit-il en évoquant enthousiaste une nouvelle génération de rappeurs.
Enfin, on a une scène qui tend à être de plus en plus intéressante. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a eu trois époques, au fait. Il y a eu l'époque IAM, NTM, Solar, on va dire. Après, il y a eu la nôtre.
Partagée avec.
Avec des groupes comme Lunatic. Non, pas la nôtre, celle de la rumeur, évidemment. On n'a pas cette prétention-là. Mais des groupes comme Lunatic, des groupes comme Idalgy, Time Bomb, La Clica. Bon, c'était peut-être un peu avant, mais... Bref, en tout cas, qui a fait manger un nouveau modèle indé, un nouveau modèle économique, une nouvelle façon d'appréhender, de rapper, mais bon, qui a été vite récupéré par Skyrock pour son ensemble. Et puis, il y a une nouvelle génération aujourd'hui qui, pour le coup, existe que sur les réseaux sociaux, qui, je veux dire, se fout comme de l'an 40 des airplay radio, qui fait de la bonne musique, qui compose avec leur environnement direct, et qui est très intéressante. Moi, j'aime bien. Je sais pas, franchement, je trouve que...
On parle de qui?
Bah, on parle de PNL, on parle de MHD, on parle de Niska, on parle de tous ces mecs qui ont faim, quoi. Et qui représentent le ghetto et le quartier français, quoi. Moi, quand je vois le petit MHD quelque part, qui fait de la musique, du rap, je veux dire, mais il se pose pas la question de savoir si c'est, il fait du rap, il compose avec ce qu'il est, quoi. Compose avec l'Afrique. Il va pas aller faire du rap, de la trap, comme à Chicago. Le môme, il est pas con. Il dit, quoi, voilà, chez moi, voilà, en bas de mon ghetto, je suis sénégalais ou je suis malien, voilà, je devrais pas en avoir honte. Tandis que notre génération, il y avait quand même, et d'ailleurs, nous, je pense qu'on faisait partie des rares, sans prétention, quelque part, c'est pour ça qu'on parlait de rap de fils d'immigrés, qui assumait le fait que, voilà, on compose avec notre imaginaire de quartier de France, quoi. Voilà, on n'est pas des Zoulous, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à avoir un modèle qui dure depuis 20 ans et on arrive à s'exporter sur des supports différents comme éditer des livres ou faire des films. Et si tu veux, c'est ce que j'aime bien dans cette nouvelle génération. Et bon, alors oui, il y a ça renvoie à des schémas un peu plus communautaires que nous. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'est du rap entre guillemets de Renoir Afrobeat ou du noir de rap de Rebeu ou du rap de voilà. Mais je trouve ça bien. En tout cas, artistiquement, ça me plaît. Voilà, donc moi je fais pas partie des pleureuses qui disent que ouais, avant il y avait une culture de machin, de trucs, de bidule. Non, je trouve que ce qu'ils amènent aujourd'hui, ces jeunes, c'est bien, c'est vachement bien. Ils ouvrent la fenêtre, quoi, vraiment. Parce que ça commençait à être rance et ça commençait tellement à puer que, voilà. Et je trouve même presque plus intéressant que ce qui se fait aux États-Unis. Même s'ils en sont aussi inspirés, mais je trouve ça plus intéressant.
Est-ce que ça peut dire quelque chose de social ou de plus collectif, ouais, ou de sociétal, ouais, clairement, ou c'est que la liberté que... de MHD ou de PNL ou de...
Je pense que, tu sais, nous on vient de faire un film et vous aurez l'occasion de le voir et on en entendra parler. Ça s'appelle Les Derniers Parisiens. Voilà, Les Derniers Parisiens, anciennement Mon Nom à Pigalle. Donc Les Derniers Parisiens avec Reda Kateb, Slimane Dazy, Mélanie Laurent. Donc voilà, c'est trois acteurs complètement avec des parcours complètement différents et tout. Et à Pigalle. Et au fait, c'est un film enraciné. Voilà, enraciné dans une langue, dans un parler, dans une façon de s'habiller. On a nos entre guillemets nos voyous d'ici, on a nos patrons de bar d'ici. C'est presque, comment dirais-je, c'est écrit avec notre créole à nous, avec un créole très parisien, avec un créole, si je puis dire, très français dans ce village qu'est le monde aujourd'hui. Donc finalement, notre enracinement, l'enracinement crée finalement une forme de rayonnement. Voilà, plus tu t'enracines, plus finalement tu arrives à, dans le monde, dans une culture qui est de plus en plus globalisée, à créer finalement ta différence.
Et c'est le cas de ces deux musiciens que vous citiez.
Eh ben, je trouve que eux, même, ça va dans ce sens-là. Dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de chanter, dans leur, je veux dire, dans leur façon même de se raconter,
de danser
et de raconter le quartier. Je veux dire, je trouve que ouais, ça va carrément dans ce sens-là. Il y en a d'autres aussi, hein. Je citerais aussi La Hyène du groupe 400 Hyènes du Bois Labbé, alors qu'ils s'inscrivent complètement là-dedans, qui feront partie d'une génération en tout cas de rappeurs qui feront parler justement par rapport à ça. Moi, je me souviens quand même à mon époque, il y avait des rappeurs qui s'habillaient vraiment de la tête aux pieds comme les mecs du Wu-Tang et qui faisaient des traductions, je veux dire, de leurs textes en français, quoi. Et pour eux, c'est un gage de qualité. C'est-à-dire que pour moi, c'est un niveau de soumission, mais je veux dire que je veux dire, j'arrivais pas. Je veux dire, non, mais tu peux pas être autant, je veux dire, autant soumis, quoi. C'est pas possible. Tu vois. Et c'est passé des choses. Voilà, il y a eu des choses entre temps. Il y a eu les émeutes. Il y a eu des affaires qui sont tombées autour du rap. Il y a eu les problèmes. Je veux dire, nous, notre affaire, au moins, il mérite que de rappeler une chose, c'est que le rap pouvait intéresser jusqu'à un président de la République. Donc le rap pouvait être dangereux, enfin dangereux entre guillemets, quand je dis dangereux, je pèse mes mots, mais subversif. Et c'est bien d'être pris au sérieux aussi. Je préfère être pris au sérieux qu'être pris pour un clown. Parce que finalement, le phénomène d'identification, il se fait par rapport à ça. Tu vois, moi je fais partie de cette génération, on a toujours aimé s'identifier, comme quand tu regardes un film, au personnage en tout cas, qui est le moins aimé du plus grand nombre, que celui finalement qui fait consensus. D'une certaine manière, il y a ce côté-là. Bon, c'est un peu, voilà, c'est peut-être un peu de la rébellion à deux francs, mais bon, il y a un truc qui est propre à chaque jeunesse, à chaque génération. Donc, si vous, et là, je trouve que voilà, dans ces groupes que je viens de citer, il y a quand j'écoute leur musique, j'ai l'impression quand même d'écouter et d'entendre, je veux dire, de regarder le monde en bas de chez moi, quoi.
Sur le corner, et je conseille à chacun d'aller voir le clip de ce morceau Roger Mila par MHD. Merci beaucoup Hubert Guillot d'avoir été avec nous cet après-midi. Il n'y a définitivement plus Internet et la société. Et pour s'en convaincre, on peut aller lire tous vos articles et les autres sur le site Internet Actu. Et merci à vous Stéphane Broadbent d'avoir été avec nous depuis les studios de la BBC. On peut citer l'un de vos ouvrages paru en 2011, L'intimité au travail, on mettra le lien. Et merci à nos collègues de la BBC d'avoir permis cette liaison.
Merci.
Les nouvelles vagues sont présentes sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé, pour échanger avec vous, Twitter, Facebook, mais aussi et bien sûr la page franceculture.fr. Tous les moyens sont bons et tous les supports sont bons pour réécouter les podcasts et les faire circuler, alors ne vous en privez pas. Merci à Romain de Bec de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi, et à Véronique Villa qui la réalise, et à Léa aussi. Merci beaucoup à Léa. Michael Simon à la suggestion musicale et aux manettes aujourd'hui. Myriam Guillot